Les rendez-vous de Bernard Roth, Senior Advisor IEIF et membre de l'Académie d'architecture.
Eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Fanny Cerez, que je connais depuis quelques années, puisque lorsqu'elle préparait sa thèse, nous avions, dans le cadre de la Fondation Palladio, soutenu avec, je dois dire, beaucoup d'admiration, ce travail tout à fait remarquable qui portait sur l'impact de l'architecture sur la qualité de vie en institution. Et Fanny, docteur en architecture, a créé, la fondatrice et associée d'une agence qui s'appelle l'Atelier AA, que j'invite d'ailleurs nos auditeurs à aller regarder, regarder son site, qui est tout à fait intéressant parce qu'elle y développe les valeurs de l'agence, fondée sur une architecture humaine, on dit parfois humaniste, et on voit aussi qu'il ne s'agit pas que de bâtir et de bien bâtir, il s'agit d'avoir un rôle actif dans notamment les établissements médico-sociaux dans leur transformation, et ceci à travers une logique inclusive et domiciliaire, bien évidemment. Ces 10 années de recherche active et de réalisation sur le sujet impliquent que nous ayons quelques éclaircissements. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Ma première question porte précisément sur le secteur médico-social qui semble en cours de véritable révolution. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quels sont les principaux changements à l'œuvre ?
Oui, en effet. Alors, il y a eu plusieurs choses qui se sont déroulées, mais je pense que tout le monde a pu voir, notamment à travers le Ségur de la santé, qui a eu comme une forme de prise de conscience que ce secteur médico-social, donc qui recouvre aussi bien le champ des personnes âgées que des personnes handicapées, de l'enfance aussi, avait besoin finalement d'aller vers des solutions qui soient plus désirables. On voit bien qu'il y a beaucoup de personnes qui ne souhaitent pas vieillir et mourir en établissement, en EHPAD, et ça s'est accéléré notamment avec la crise. Et donc, cette grande révolution, j'allais dire, pour faire de manière assez simple, il y a eu une première révolution quand on est passé de l'hospice à la maison de retraite. Donc là, il y avait passé finalement un peu de l'hôpital à une résidence. Et puis, il y a eu comme une seconde révolution de la maison de retraite à l'EHPAD, où là, on a commencé à avoir une vraie dimension hôtelière. Et là, maintenant, arrive cette troisième révolution et qu'on pourrait appeler une révolution domestique. C'est-à-dire, on se dit, un hôtel et des soins, pour résumer un peu ce qui est aujourd'hui l'EHPAD, ça suffit pas et c'est pas ce dans quoi les personnes ont envie de vivre et de finir leur jour. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui cette transformation domiciliaire de l'EHPAD, qui viendrait un peu en remplacement de la culture sanitaire, qui est quand même sanitaire et hôtelière, qui est très forte dans ces structures.
D'accord. Et alors qu'est-ce qui a provoqué ce changement ? Quelles en sont les causes ?
Alors, il y a plusieurs grands facteurs. La première chose, c'est le changement générationnel. Pour avoir une idée assez simple, finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a dans les EHPAD des personnes qui ont été quand même surprises par leur vieillesse, si je peux dire. C'est-à-dire, on a aujourd'hui des gens qui atteignent quasiment les 100 ans, qui n'ont pas vu leurs parents atteindre de tels âges. Alors que la génération qui arrive, il faut savoir qu'en 2030, on va avoir les personnes qui ont 85 ans sont des gens qui avaient 18-20 ans en mai 68. Ça veut dire que c'est des personnes qui n'ont pas connu la guerre, qui ont accompagné leurs parents dans les EHPAD, qui ont eu une très grande autonomie, un vrai pouvoir d'achat et qui clairement sont en train de se prendre en main en disant on a toléré ou on a accepté, enfin, souvent un peu par défaut, ces solutions, mais c'est pas ce qu'on souhaite pour nous-mêmes. Donc en fait, il y a cette première, une espèce de changement, si j'allais dire, entre guillemets, de clientèle ou en tout cas d'aspiration qui est très forte. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est qu'il y a aussi une évolution des profils et des pathologies qui sont prises en charge. Donc jusque-là, il y avait la grande problématique, c'était la dépendance physique. Mais on voit bien qu'avec tout le développement des services d'aide à domicile et toute l'adaptation des logements, on est aujourd'hui en capacité de maintenir le plus longtemps possible et jusqu'à la fin de la vie des personnes qui ont besoin de beaucoup d'aide physique. Alors que dans toutes les pathologies qui impliquent des troubles cognitifs, et je pense notamment à la maladie d'Alzheimer entre autres, mais on voit bien que le maintien à domicile il devient très compliqué, voire impossible. Donc il y a aussi ce changement de profil qui implique un changement des structures. Et le dernier point, j'en ai parlé un peu à l'introduction, mais la crise sanitaire a été quand même très révélatrice, ou en tout cas une espèce d'accélérateur de ce changement qui aurait mis sans doute au moins 5 années à arriver sans ça.
Mais alors, qu'est-ce qu'elle nous apprend, cette crise sanitaire, précisément, par rapport aux EHPAD ?
Alors, plusieurs choses. C'est-à-dire, la première chose, c'est, je pense, parce que nous avons tous vécu un temps de confinement et d'isolement social, on a tous pris conscience que c'était assez insupportable de ne pas pouvoir sortir librement, de ne pas pouvoir accéder à un certain nombre de choses, de ne pas pouvoir voir nos proches comme on le souhaite. Et finalement, c'est comme si on avait tous, pendant ce temps de confinement, vécu ce que vivent les gens au quotidien dans un EHPAD, et ça nous est apparu à tous insupportable. Donc ça, il y a eu cette prise de conscience. Et dans les EHPAD, il y a eu la prise de conscience, d'abord que le lien, il est absolument essentiel pour la qualité de vie, et que en cas de confinement, avoir comme espace privatif juste une petite chambre, c'était quand même très très restreint, parce que beaucoup de personnes ont été confinées dans leur chambre, donc 20 mètres carrés, c'est assez difficile. Donc ça, c'est le premier enseignement, c'est de se dire peut-être que avoir simplement une chambre, ça suffit pas, et que si on avait un espace un peu plus grand qui permettrait notamment d'y déjeuner, d'y recevoir ses proches, ça réglerait un certain nombre de problématiques, notamment épidémiques. Avec ça arrive revient l'idée, j'allais dire, qui existait dans le milieu hospitalier avant la découverte des antibiotiques, c'est de dire, plutôt que de penser à des bâtiments monoblocs qui sont très problématiques en termes de transmission des virus, on pourrait imaginer à nouveau des solutions plutôt pavillonnaires. Et ça, c'est intéressant en termes d'échelle aussi, c'est que c'est très différent d'aller dans une structure où on a plusieurs petites maisons, plusieurs pavillons, que d'aller dans un très grand bâtiment qui a 80 chambres et qui a tout de suite des connotations hospitalière. Autre chose qui est ressortie, c'est le fait que la sécurité, c'est bien et c'est sans doute nécessaire, mais en fait, on ne peut pas s'empêcher de vivre juste pour ne pas mourir. Ça, je crois aussi que ça a été un grand enseignement au-delà des EHPAD, mais assez grand, et qui aspire peut-être à un regard un petit peu différent sur les questions de liberté, de dire il faut qu'on accepte un certain nombre de risques. Parce que préserver la santé physique, c'est nécessaire, mais si ça se solde par un très grand impact négatif sur la santé psychique, on n'a pas atteint l'objectif qu'on voulait. Et finalement, c'est un peu une prise de conscience de ces établissements que satisfaire les besoins du corps, des corps qui vieillissent, ça suffit pas, il faut aussi satisfaire plein d'autres choses auxquelles les personnes aspirent. Et là, on est à un moment qui n'existait pas tellement jusque-là. C'est que pour la première fois dans l'histoire des EHPAD, on a un très grand nombre de places vacantes, donc qui est lié à la crise sanitaire, hein, donc beaucoup de décès, comme on l'a tous vu, mais aussi des personnes qui souhaitent plus rentrer et qui, parce que à cause de trop de contraintes, les familles qui ont décidé de garder leurs proches chez eux, même si c'était très très difficile. Et ces places vacantes, elles viennent créer une forme de concurrence entre les établissements. Et elle les oblige aussi, ça accélère aussi ce changement de se dire on a besoin de réfléchir à nouveau à la désirabilité de l'offre qui est produite.
Concrètement, l'EHPAD de demain, puisque je comprends que la crise sanitaire nous a ouvert les yeux, à quoi ressemblera-t-il ?
Alors il y a plusieurs façons, j'allais dire, d'aller dans cette logique domiciliaire et d'imaginer le futur des établissements. Mais dans tous les cas, ce qui ressort de manière très fort, et là on a eu très récemment le rapport de Luc Broussy et du think tank Matière Grise, qui a été co-signé par de très grands groupes, la Croix-Rouge française, Mitis, la Fondation Partage Vie, Corian, Orpea, le groupe SOS Senior. Donc ce qui ressort, c'est qu'on a besoin de faire de ces lieux de vrais logements, de vraies habitations où les personnes, elles ne seront pas seulement des résidents ou des patients, mais de vrais habitants. On a besoin de penser à une dissociation de l'offre d'habitat et de soins pour que ça soit possible et de grandir ces surfaces privatives. Donc là, dans le rapport, ils disent à minimum 26 mètres carrés, mais sans doute qu'on devrait aller plutôt vers 30, et d'imaginer des solutions tout à fait diversifiées et alternatives. Comme c'est le cas par exemple déjà aux Pays-Bas, de dire plutôt que de faire des structures d'hébergement médicalisé, on pourrait aller vers du logement assisté et des formes différenciées, soit des appartements, de la colocation, mais en tout cas se détacher totalement du modèle sanitaire. Et ça, c'est un changement qui a déjà eu lieu dans le secteur du handicap il y a une quinzaine d'années. Donc c'est intéressant de se dire qu'en France, on a déjà eu une révolution qui a eu lieu, on a peut-être à s'inspirer de cette révolution au lieu de repasser par les étapes enfin, qui ont été vécues par le secteur du handicap. Et ce qui est vraiment... Non, ce que je voulais dire, c'est que le Ségur de la santé, il est vraiment... tout le monde a vu les différentes choses, mais parmi tout ce qui a été posé sur la table, c'est 1,25 milliard d'euros pour la transformation de cette offre médico-sociale dans ce sens-là. Et ça, ça va être aussi un vrai accélérateur de cette transformation. Tous les acteurs sont dans les starting blocks pour inventer ces solutions de demain.
Mais alors, dernière question, quelles évolutions sont nécessaires pour mettre en œuvre ce changement à partir du moment où on a cette perspective de budget ?
Alors, il y a plusieurs choses. Je pense que je peux dire, c'est qu'il faut qu'on construise les projets de manière un peu différente. Et là, je pourrais m'adresser aux promoteurs immobiliers, mais je pense que la solution de dire on a des programmes type qui sont faits en VFA, puis qui sont vendus à des groupes qui mettent après un gestionnaire, on voit bien que le fonctionnement et le cadre bâti étant tellement imbriqué qu'on a besoin de co-construire les lieux avec les personnes et finalement d'élargir aux acteurs du cadre bâti cette notion d'assistance à maîtrise d'usage qu'on appelle aujourd'hui en fait et d'entrer dans une démarche de co-construction territorialisée centrée sur l'usage et de sortir de cette démarche de duplication de programmes implantés sur les territoires. Et par rapport à ça, je pense qu'il y a un vrai enjeu de réformer les référentiels qui existent dans le secteur. Je pense notamment à celui de l'ANAP ou de la CARSAT qui ont finalement un peu stéréotypé les programmes et qui sont très loin de ce qu'on peut attendre aujourd'hui. Donc ça, c'est un autre enjeu sur lequel on travaille. Il y a un aspect financier et sur la question financière, il y a un point très important que je veux dire par rapport à ça, c'est que faire mieux, ça ne devrait pas forcément coûter plus cher, ça demande simplement de faire autrement. Alors je ne dis pas que c'est simple, ça requiert du temps, de l'intelligence, des compétences, mais on doit être capable, par exemple, de passer de 20 mètres carrés à 30 mètres carrés d'espace privatif en redéployant un certain nombre de mètres carrés de surface. En fait, on a besoin, on est dans un moment où on a besoin d'ingénierie collective, d'intelligence collective pour faire émerger ces solutions. Parce que l'objectif, c'est pas d'aboutir à une offre merveilleuse, mais que personne ne pourrait se payer. Et puis, il y a un autre point aussi qui est assez important, c'est que, bien sûr, il y a des établissements à construire, ils sont quand même très minoritaires, et mettons que sur cela, on va être capable d'inventer le futur, mais il y a aussi tout le parc existant. Et là, il y a un vrai enjeu d'être capable de libérer totalement ces locaux pour mettre en œuvre des changements très forts. Je pense par exemple transformer deux chambres en un appartement, imaginer des solutions extérieures ou la transformation de certaines places en offre d'habitat inclusif. Enfin, il y a plein de choses à imaginer, mais ça demande de réduire les contraintes de chantier en site occupé. Donc là, il y a à réfléchir sur comment est-ce qu'on va être capable de sortir cette activité qui est un peu sensible. Et tout ça, en fait, tout ce que je viens d'énoncer, montre bien qu'il y a derrière tout ça se cache la question de la compétence des acteurs du cadre bâti et de considérer que cette révolution, elle challenge toute la chaîne de production et qu'on a besoin en gérontologie de s'intégrer ou d'intégrer les questions à l'importance du cadre bâti, mais dans le cadre bâti d'intégrer quelques compétences sur ces personnes âgées, qu'est-ce qu'elles sont, de quoi elles ont besoin et comment est-ce qu'on accompagne tout ça, enfin en fait de sortir d'une logique de silo pour entrer dans une logique partenariale à toutes les étapes.
Il y a quelques mois, Edgar Morin écrivait que nous pensions séparés et liés. Et je crois que c'est une assez belle conclusion de tout ce que tu viens de nous dire. On peut tenter un bel exploit, on sent à quel point ce sujet est capital, particulièrement face au vieillissement de la population, comme on a l'habitude de dire, mais j'ai envie de dire surtout à l'allongement de la durée de la vie, qui n'est pas tout à fait la même question, pas tout à fait le même angle d'attaque. Et je propose que nous joignions comme document un certain nombre de tes publications récentes, puisque tu as beaucoup réfléchi et fait avancer la recherche dans ce domaine pour donner des références donc à nos auditeurs. Merci Fanny et à bientôt.
Merci.
Les rendez-vous de Bernard Roth, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.